de tisses d'emballage. C'est en quelque sorte la loi de Murphy. La loi de Murphy, vous connaissez ? Il s'agit en fait de la certitude que tout ce qui peut mal tourner va effectivement mal tourner. C'est un peu comme un malheur qui n'arrive jamais tout seul. Si vous croisez un chat noir, vous dites, bah, c'est sûr qu'il va y avoir plein de choses calamiteuses aujourd'hui. L'exemple le plus célèbre, vous savez, la tartine, cette fameuse tartine que vous venez juste de beurrer et de mettre plein de confiture dessus et elle tombe. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Bah, elle tombe du mauvais côté. C'est inévitable. Ah ouais, une image de petit déjeuner catastrophique et puis on se dit, mon Dieu, mais la journée, ça va être tout long comme ça. Et du coup, on a une humeur de perdant et on a le sentiment qu'on va avoir que des ennuis. Alors, pour cette fameuse boîte de médicaments, parce que là, je m'égare. Est-ce qu'on peut conjurer ce mauvais sort ? Est-ce qu'on est obligé fatalement d'ouvrir cette boîte du mauvais sens et de toujours tomber sur la notice plutôt que sur une plaquette de médicaments ? Alors oui, on peut remédier à ce mauvais sort. Deux astuces que je vous donne. D'abord, pour ne pas vous faire avoir, selon certaines études, il semblerait que, parce qu'ils ont fait des études quand même, hein, faut se le dire. Donc, selon certaines études, il suffit de l'ouvrir du côté où se trouve la date de péremption, soit à l'opposé de toutes les indications. Dans leur logique, ça correspond à ouvrir le fond de la boîte, et c'est pour ça que les fabricants mettent toujours, la date de péremption du côté de la notice. Donc, non, le contraire. Là, je m'égare. Je me perds. Donc, si vous ouvrez votre boîte du côté de la date, vous êtes sûr de tomber sur les sachets. Parce que le réflexe serait, pour nous, en fait, on voit une date, qu'est-ce qu'on fait ? On va ouvrir de l'autre côté. C'est pour ça qu'ils mettent d'ailleurs la notice du côté où ils se disent, ils vont l'ouvrir de ce côté-là. Ou alors, un autre truc qui paraît qui fonctionne assez bien, si vous voulez pas trop vous embêter à chercher la date de péremption, il faut ouvrir l'emballage par le côté droit quand on est face à la boîte. Vous prenez la boîte, vous vous mettez face à elle du bon côté et vous choisissez le côté droite. Et dans la majorité des cas, la notice est glissée du côté gauche. Ben voilà, maintenant vous avez toute la situation en propre main et vous allez avoir une merveilleuse journée.
La question improbable.
Pourquoi les pizzas rondes, on les met dans des boîtes carrées et on les coupe en triangle ?
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Du jour.
Un petit peu.
Ah oui, mais quel bon geste !
Sur Radio Chablais.
Une plante qui est très populaire en Europe, en Suisse également. On en est même carrément des fervents amateurs. On en plante des millions dans nos parterres et on l'utilise également pour décorer les balcons. On peut le dire, en Suisse, le géranium a en quelque sorte un statut de fleur nationale. Limite, si on ne le considère pas comme notre emblème, la Suisse avec comme drapeau un géranium, pourquoi pas ? Bon, et en plus, on peut aussi souligner qu'il y a différentes expositions qui ont lieu consacrées au géranium, notamment à Berne par exemple. Mais saviez-vous que ce fameux géranium a de nombreuses vertus et on peut l'utiliser notamment en cuisine. Le geste du jour, utiliser son géranium en cuisine, rien que ça. Alors, bon, les géraniums, ça sent bon en règle générale. Et en cuisine et en pâtisserie, ben, apparemment, ça peut relever les saveurs des plats. Ça peut faire des belles décorations également. Petite touche unique, hein, on peut dire. Ou alors, on peut l'utiliser en huile essentielle aussi. Hein. Il y a l'huile essentielle de géranium. Il y a des variétés citronnées qui sont bien indiquées pour les salades, pour les sorbets et pour les infusions. Et puis, il y a aussi certains géraniums qui ont un peu plus un côté comme la menthe, tout simplement. Après, on peut souligner que le géranium a des propriétés curatives. Donc, le geste du jour, ça serait de l'utiliser pour vous faire du bien, pour votre santé. On peut souligner notamment que cette fleur qui est native d'Afrique du Sud, on l'utilise pour soigner les maladies respiratoires. Certains géraniums interviennent également dans la préparation de remèdes contre le rhume. Rien que ça, me direz-vous. D'autres espèces ont un effet apaisant. Ça nous permet de lutter contre le stress, contre les états dépressifs. Alors ne faites pas tout et n'importe quoi. Allez voir quand même des spécialistes, on est bien d'accord. Et au hit parade de l'utilisation et du geste que l'on peut faire pour nos géraniums, c'est de l'utiliser contre les guêpes et les moustiques. Le géranium est odorant et il aide à repousser ces insectes qui sont franchement indésirables, on peut le souligner. Et ça va sauver nos soirées sur nos terrasses. C'est pas pour rien que depuis des décennies, on met des géraniums au balcon. C'est justement parce que grâce à ces odeurs, elles chassent les moustiques. Et durant la nuit, si on peut éviter de se faire piquer par ces machins qui font bzzz, c'est plutôt agréable. Le geste du jour, donc, prendre soin de son géranium car il fait du bien dans notre assiette, pour notre santé et pour éviter de se faire piquer.
Le geste du jour.
Donc un peu de piment.
Ah oui, mais quel bon geste !
Sur Radio Chablais, retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit. Suis.
Voici les titres du journal.
Une course d'entraide s'est tenue dans les écoles du Haut-Lac vendredi passé. 1500 élèves ont bravé la fraîcheur matinale en faveur d'une future école pour jeunes indiennes et de l'association Rayon of Asha. Le festival Existe s'est déroulé samedi au Théâtre du Crochetan. Près de 500 visiteurs de milieux et générations diverses et variées ont plongé dans le milieu du hip-hop. La campagne du PLR Valaisan au municipal de cet automne est lancée. À Montet, le parti ambitionne de rafler la présidence de la commune sans se mettre de pression. Caroline Ulrich et Thibaut Dessène ont réalisé le doublé 2 ans après s'être imposés sur la petite patrouille des glaciers. Les deux vaudoises ont récidivé hier en compagnie de la Haut-Valaisanne Alessandra Schmitt.
Pour la météo, un ciel changeant pour aujourd'hui et demain. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Journaux. Bonjour Léa.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Une course très spéciale s'est déroulée en fin de semaine dernière à Vouvry. Près de 1500 élèves issus des écoles du Haut-Lac, de Viona à Saint-Gingolph, ont couru en faveur de Rayon of Asha. Présidée par une enseignante en primaire à Vouvry, cette association active en Suisse et en Inde a l'ambition de construire une école pour jeunes filles à Pune, métropole indienne de plus de 5 millions d'habitants. Debout au bord de la piste en supportrice, la directrice des écoles du Haut-Lac retient l'esprit fraternel qui planait au-dessus et autour du stade Saint-Denis de Vouvry. Suzanne Masseret au micro de Guillaume Abbé.
Oui, c'est vraiment une valeur qu'on veut porter, qui est importante pour nos jeunes de sentir qu'on peut s'investir pour les autres. La solidarité, peut-être particulièrement à notre époque, qui est importante, l'entraide et puis se serrer les coudes. Oui, c'est vraiment une valeur qu'on veut défendre et qu'on aimerait défendre à long terme aussi en se disant que c'est des actions qu'on doit refaire.
Chaque coureur a dû trouver un parrain qui le sponsorise en fonction du nombre de tours effectués en une demi-heure. Après la course, Marina, 8 ans, élève de 4H, était aux anges.
J'avais envie que tout le monde me félicite, que je fasse 12 tours, mais j'en ai fait 10.
Et puis, qui c'est qui te parraine?
Ma maman. J'ai failli fondre en larmes. Parce qu'elle m'a dit qu'elle n'allait pas venir, mais au final, elle est venue.
Les élèves et les enseignants du cycle d'orientation du Haut-Lac ont aussi participé à la course d'entraide. Ils se sont élancés après les primaires. Les résultats financiers de l'opération seront connus au mois de mai.
La deuxième édition du festival Existe s'est déroulée ce week-end au Théâtre du Crochetan à Montet.
Pour rappel, ce festival met en lumière toutes les formes de la culture hip-hop, de la danse à la musique en passant par l'art visuel urbain. L'ambiance était folle et les murs du théâtre tremblaient durant le show du soir, relate David Gross du duo Cooper et Voldo. L'organisateur s'est réjoui de la diversité des spectateurs présents.
On a touché un très très large public et ça c'est génial, c'est tout ce qu'on veut en fait, c'est de voir autant des enfants que des personnes âgées qu'un âge plutôt jeune, voir se mélanger ces publics-là, des publics qui viennent de partout, aussi des rencontres, des gens qui sont plus vus depuis longtemps, qui peuvent vraiment partager un moment autour de l'amour de la danse et de la passion de cette culture hip-hop, vibrer au son de la musique de DJ Nelson et tout ça, c'est vrai que ça amène une vibe dans le théâtre et le technicien du théâtre qui est là depuis 30 ans disait mais moi j'ai jamais vu le crochet comme ça.
Avec une présence marquée de personnes non initiées à la culture hip-hop, l'organisateur ne craint-il pas de perdre en authenticité ? La réponse de David Gross.
Non, pas vraiment, parce que c'est vrai que nous, on reste propre aux valeurs du hip-hop et on pose la chose sur le plateau et les gens la voient telle qu'elle. Vraiment, ils voient ce milieu underground-là qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de rencontrer. C'est vrai que les battles, c'est plus quelque chose de niche. Le public qui vient, c'est souvent des publics danseurs ou familles des danseurs. Mais là, le fait d'amener ça dans un théâtre, on permet à plus de gens de rencontrer cette culture et de prendre connaissance de tous ces artistes-là qui brillent en Suisse et également à l'international.
Satisfait de la fréquentation avec près de 500 visiteurs, les organisateurs annoncent un troisième opus du 4 au 5 avril 2025. Un sujet réalisé par Guillaume Abbé.
On reste à Montet où le projet Bientôt à l'école va démarrer cet automne.
Financé par le service cantonal de la jeunesse, il vise à faciliter la première rentrée scolaire d'enfants et de familles non francophones. Un groupe allophone sera mis sur pied dès le mois de septembre au sein de la crèche La Tonquinelle. Le but est d'acquérir une connaissance de la langue locale et de bonnes compétences de base avant de commencer l'école.
Le PLR Valais a lancé la la campagne des municipales jeudi dernier à Montet lors de son assemblée générale.
Deux jours plus tard, la section locale publiait la liste de 6 candidates et candidats pour le conseil municipal. Clair, les objectifs des libéraux radicaux montésans sont 3 sièges plus la présidence de la commune. Une intention martelée en début d'assemblée générale par le président sortant du PLR valaisan, Florian Piazenta. Une position qui efface toute ambiguïté mais qui n'ajoute pas de stress, selon le chef de campagne du parti montésan et président du conseil général Antoine Belvalde.
Ça rajoute pas de pression, ça montre l'enjeu et l'importance. Et cet enjeu, cette importance, on en avait conscience. On se donne les moyens aussi à nouveau de proposer à la population des alternatives, des candidats de qualité. On sait maintenant que le président actuel ne se représente pas. Donc d'autant plus, il faut qu'on élise quelqu'un à la tête de cette ville pour les 12 prochaines années ou pour le futur. Et on va construire, à l'image des présidents précédents, tout ce qui va se faire. On doit finir certains projets, c'est clair. Mais c'est ce que va apporter la liste dans son ensemble.
Antoine Belvalde au micro de Guillaume Abbey. Les Valaisannes et Valaisans éliront leurs autorités les 13 octobre et 10 novembre 2024. La situation est délicate en Valais en raison des nuits froides qui se poursuivent cette semaine et du risque de gel qui en découle. Du Léman jusqu'à Sierre, tous les types de cultures, que ce soit les fruits, légumes ou encore les vignes, tant en plaine que sur les coteaux, sont sous surveillance.
Et pour la 12e année consécutive, les eaux du Léman n'ont pas été complètement brassées.
Les données de la CIPEL, la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, indiquent une profondeur de brassage de 100 mètres, un chiffre inférieur à la moyenne de ces 10 dernières années. En cause, les températures plutôt élevées enregistrées cet hiver, lesquelles ont maintenu la concentration en oxygène des couches profondes, à un niveau préoccupant pour la santé de l'écosystème lacustre. La Suisse a de nouveau un astronaute à part entière. Le Bernois Marco Ziber a été officiellement admis dans le corps des astronautes de l'Agence spatiale européenne aujourd'hui, au terme de sa formation de base à Cologne en Allemagne. À noter que Marco Ziber est le 2e astronaute suisse après le vaudois Claude Nicollier. Le chanteur Kenji Girac a été très grièvement blessé par balle aujourd'hui dans les Landes et hospitalisé ensuite à Bordeaux. Son pronostic vital n'est plus engagé après l'avoir été un temps, a-t-on appris de sources proches du dossier. À noter encore qu'une enquête a été ouverte. Et on passe au sport. Pas de record, mais une performance de choix pour le trio composé de Caroline Ulrich, Thibaut Dessen et Alessandra Schmidt. Les trois femmes se sont imposées hier dans la catégorie féminine sur la petite patrouille des glaciers après un effort de 3h41 minutes et 52 secondes. Pour les athlètes de la Tour de Paix et de Lézin, il s'agit de la 2e victoire consécutive après 2022. Il aura toutefois manqué 9 minutes pour battre le record de temps sur le parcours. Pas de quoi décevoir toutefois fois les vainqueurs du jour qui voient déjà en grand pour 2026. Caroline Ulrich.
Je pense qu'on va quand même laisser de côté ce record et puis on va partir sur la grande dans 2 ans. Et puis on verra pour les objectifs, mais pour le moment déjà l'affaire, c'est déjà un gros truc.
C'est un rêve cette grande patrouille.
Oui, je pense que c'est un rêve, oui. Ouais, quand on voit ici, quand on arrive à Verbier, même avec une seule course, le monde qu'il y a, ça fait immense plaisir, ça met des étoiles dans les yeux.
Et chez les hommes, c'est un trio européen qui a remporté cette petite PDG 2024, composé d'un Andorran, d'un Norvégien et d'un Allemand. Oriol Holm-Rupert, Eric Kervatn et Finn Hoesch ont bouclé le parcours de 26 km en 3h14 minutes et 23 secondes, non sans souffrir. Les précisions d'Oriol Holm-Rupert.
Aujourd'hui, vous avez vraiment très 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 froid. C'était éprouvant au sommet. Fallait pas y rester, en plus on était en combi, donc fallait faire au plus vite. Aussi techniquement, c'était compliqué parce qu'avec le froid, les peaux elles collaient plus. Les particules de neige entraient beaucoup plus facilement dans les peaux, donc fallait être vraiment en équipe team, fallait vraiment être en esprit d'équipe. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on est super contents, on n'a rien lâché. Dès qu'on pouvait pousser, on poussait. On a tout fait pour.
Et c'est un trio autrichien qui a pris la 2e place juste devant le team Gruyère. Ce sujet a été préparé par Thierry Nicolet.
La première édition de la course Up and Down a eu lieu samedi à Aigle.
Des populaires aux élites, en passant par les écoliers, ils étaient 500 à fouler les pentes boueuses de la forêt du Failly. François Leboeuf, membre du comité d'organisation et coureur, évoque l'importance et le plaisir de créer une course ouverte à tous et notamment aux enfants.
d'avoir déjà développé le plaisir des jeunes. Puis moi, je le vois quand on amène les classes là. On a eu beaucoup d'élèves qui sont venus parce qu'une fois qu'ils l'ont fait une fois, tout le monde se prend en jeu, même ceux qui ne sont pas coureurs. Au pire, tu marches la montée, puis tu as tellement de plaisir en descendre que ça donne envie de courir. Même hier, juste en balisant le parcours, t'as juste les étoiles dans les yeux juste à voir le chemin. Puis à, tu vois, c'est... Donc, c'est, il faut juste que les gens le vivent, puis après, ça va se développer tout seul.
François Leboeuf au micro de Basile Daillère. À noter que de l'autre côté du globe, au Japon, les Chablaisiennes Maud Matisse et Thérèse Leboeuf, l'épouse de François, ont brillé ce week-end en montant toutes les deux sur le podium des Golden Trail Series.
L'actu en continu sur radiochablais.ca. Radio Chablais, programme de nuit.
Plan large.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Hélène Jacobé, bonjour.
Bonjour.
On s'est donné rendez-vous à Martigny. C'est un lieu de passage pour vous. Vous êtes romancière. Vous publiez un premier roman chez Favre et Héloïse d'Ormesson. Donc double édition, une en Suisse, une en France. Le Lotus Jaune, on va en parler. C'est un roman historique. Ça se passe en Chine, rien à voir avec Martigny. Mais pourquoi ce... Bon, vous habitez Fribourg, vous. Hein, on va dire que Martigny est un lieu de passage.
Oui, et puis je passe souvent par Martigny. Enfin, j'y passais déjà enfant pour aller à Chamonix, où on allait souvent en vacances. Et c'est un endroit où je retrouve souvent ma maman, où on va voir les expositions de la Fondation de Janada, se promener dans le parc et parfois manger au Kwan Boon, qui est le très bon restaurant chinois du coin. Voilà. Donc,
alors, Martigny, on aime bien. C'est là que vous avez puisé votre désir de Chine ou...
Bah, je pense que ça, oui, ça, quelque part, ça a nourri un goût peut-être. Oui, probablement, ouais, ça a commencé par ça, la Chine, pour
bon,
moi.
On va dire, Martigny, hein, comme cette vallée du Rhône, est une étape de l'Orient Express, hein, donc peut nous emmener vers l'Orient. Alors, c'est l'Orient, Proche-Orient, mais on peut imaginer qu'après, le train continue vers l'extrême-Orient, où vous nous emmenez, Hélène Jacobé, avec ce Lotus Jaune. C'est un roman historique autour d'une femme réelle qui a existé, vous allez nous en parler, et puis qui se déroule autour de l'année 1900, dans ce qu'on appelle la révolte des boxers, en français, dont on va assez largement parler aussi. Moi, je me suis imaginé, en lisant votre livre, voilà une cynophile qui va rencontrer un cynophile d'ailleurs, mais pas avec la même orthographe, parce que moi j'aime beaucoup mon chien, mais, et qui parle probablement chinois et qui est fille de diplomate, qui a vécu 10 ans en Chine. Non, pas du tout, j'ai entendu ça dans une interview.
Non, non, et justement, en fait, ce qui est marrant, c'est que je me rends compte qu'il y a vraiment, alors là, pour le coup, une imposture, parce qu'on me dit, ah, mais alors vous êtes sinologue, vous êtes prof de chinois, mais vraiment pas du tout. Donc moi, je suis prof de français à Fribourg, dans un collège, à l'école de com. Et en fait, pour moi, la Chine, c'était un petit peu... Alors, j'aime bien la Chine. Bah, je vous dis, la cuisine chinoise, mes parents, ils aimaient bien. Ils nous emmenaient volontiers. Il y avait tout ce cinéma...
Il m'arrive de faire un karaoké, bon...
Oui, ah oui, très volontiers aussi. Et puis, il y avait tout ce cinéma des années 90, où que ma maman nous emmenait voir. Il y avait le Palanquin des Larmes, le Dernier Empereur. Oui, alors, je n'ai pas vu petite, celui-là, ouais. Parce que... bon. Mais il y avait tout ce cinéma qui était inspirant. Et donc, moi, la Chine, je connaissais comme ça, vraiment, disons, comme une étrangère, quoi. Enfin, ouais. Vraiment, pour son côté exotique, le cirque aussi, hein, dont je parle, avec ces lions dansants, ces gymnastes qu'on voit, que j'ai vu au cirque Kini, certainement. Donc, moi, la Chine, je connaissais comme ça.
Mais quel pas, hein, entre voilà, moi aussi j'ai vu le Dernier Empereur, un certain cinéma,
c'était un énorme travail, franchement, ouais. Pour être honnête, j'ai passé du temps en bibliothèque, puis surtout en me disant bon, au début je me suis dit, oh, je vais pas me laisser effrayer, j'ai fait une première version romanesque, en me disant, bah, de toute façon, qui va lire mon bouquin, première version romanesque. Là-dessus, Covid, les bibliothèques ferment, bébé, donc on a mis tout ça de côté pendant un petit moment. Et puis après, je me suis dit, non, mais cette version romanesque, quand même, ça ne me convenait pas. Parce que plus je me mettais dans l'histoire, plus le personnage m'intéressait. Mais un personnage historique, on ne peut pas juste le fantasmer, en fait. Il fait partie d'une réalité sociale, politique, géographique. Et donc, je me suis dit, non, mais là, je viens en bibliothèque et je cherche. Et du coup, en fait, c'était hyper intéressant. Mais je pense que la Chine, c'est pas forcément le plus important dans cette histoire. Et l'aspect civilisation chinoise, voilà. voilà, enfin oui, c'est intéressant, mais finalement j'ai fait le job de pré-mâcher cette histoire pour qu'on puisse la comprendre. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était
le destin voilà. d'une femme. Bon, alors ça, oui, évidemment, moi aussi, ça m'a intéressé, le destin de cette femme. Je suis votre lecteur, mais tout ce qui va, moi, je suis un grand mangeur de romans historiques, et c'est clair que si tout ce qui va autour est insuffisant, moi, j'ai très peu de connaissances sur la Chine, mais ça marche pas en effet. Donc le deuxième job que vous avez fait, il est essentiel.
Oui, puis je pense que pour comprendre ce qu'elle a, parce que moi ce qui m'intéressait vraiment, bon, il y a eu la photo sur Wikipédia, je me disais, mais il y avait quelque chose qui ne matchait pas. C'était le fait qu'elle soit guérisseuse. Donc les guérisseurs, il y en a, enfin à Fribourg il y en a beaucoup, en Valais il y en a beaucoup aussi. Les guérisseurs, c'est des gens très modestes, très discrets. Et là, tout à coup, elle pose avec, donc sur une photo, les Chinois ne se faisaient pas du tout prendre en photo, en meneuse de guerre.
On est en 1900. Hein,
en 1900, ouais. Ouais, mais voilà, oui, à l'époque, ouais, elle ne se faisait pas prendre en photo, les femmes étaient vraiment confinées. Et là, il y avait quelque chose qui pour moi ne matchait pas et que je voulais comprendre. Et finalement, le roman, c'est une proposition de quelque chose qui a pu être possible.
Ouais, on va raconter quand même un peu cette histoire de photo, hein, parce qu'on a affaire donc à un personnage historique qu'on connaît comme une des personnalités, on va dire la passionnaria, hein. C'est pas cohérent avec la Chine probablement, mais de cette révolte des boxers, qui est prise en photo en effet avec une douzaine d'autres femmes, et qui est un vrai personnage historique. Elle s'appelle Lin Ayer.
Voilà.
Vous ni moi ne savons comment
tout
ça se prononce exactement.
Un mystère, mais en fait, un mystère de plus.
Et donc historiquement, si on laisse de côté ce que vous avez fait d'un point de vue romanesque, qu'est-ce qu'on sait d'elle?
Alors, qu'elle a vécu, qu'elle a posé et qu'elle a fait défiler, en tout cas que ses milices ont défilé à Pékin devant l'impératrice au moment de cette révolte. Voilà, ça c'est historique. Et puis c'est à peu près tout. Le reste c'est des chansons, des poèmes, et notamment cette réputation d'être capable de soigner les gens en claquant des mains. Voilà, donc une réputation de miracle. Le reste, moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé beaucoup plus.
Bon, vous nous conviez à un choc de civilisation, hein, une civilisation chinoise millénaire avec ses traditions un peu obsolètes si on imagine ce qu'était l'enthousiasme conquérant de l'Europe au 19e et au 20e siècle, mais riche, hein, civilisation extrêmement riche, mm-hmm. précoce par rapport à la civilisation européenne d'ailleurs, hein, j'ai regardé un peu l'histoire de la Chine, du coup la dynastie des Song, hein, l'an 1000, déjà l'imprimerie, déjà la poudre, déjà toutes sortes d'inventions, alors que le Moyen-Âge profond était encore notre lot en Europe. Et c'est le choc entre ces deux mondes. Et vous nous racontez finalement une révolte populaire due à l'arrivée des Européens, l'arrivée des chrétiens, mm-hmm. déjà depuis quelques décennies, hein, dans cette Chine.
Ils n'avaient pas le droit de s'installer. En fait, c'était... Mm. Il y avait quelques jésuites à la cour de Pékin, mais qui étaient un peu des intellectuels. J'ai l'impression qu'on montrait comme des bêtes exotiques. Finalement, c'était un petit peu même précieux finalement d'avoir un jésuite. Mais ils n'avaient pas le droit de s'installer. Et c'est après les guerres de l'opium que les Chinois ont perdu. Donc où les Britanniques ont importé illégalement de l'opium en Chine.
On va raconter cette histoire. Voilà, c'est
quand même assez dingue. Et ouais. après avoir perdu ces guerres de l'opium, les missionnaires ont le droit d'entrer. Dans les terres chinoises, et là, du coup, de prêcher. Et ils ont complètement bouleversé la société, enfin l'organisation sociale
l'harmonie, qui n'était pas évidente. Le feng shui, on le voit souvent passer dans votre livre, c'est pas voilà, nous on voit ça comme un magasin avec des petits jets d'eau et des petits faux jardins. Chez eux c'est une réalité, il faut que le monde soit harmonieux, et l'arrivée
alors,
des
ça
étrangers
l'était, et visiblement ce qui, alors moi ça m'a étonnée et ça m'a épatée quand j'ai fait mes recherches, c'est que depuis la guerre des boxers, où toutes les superstitions justement ont été malmenées par la guerre, les Chinois n'aiment pas trop parler du feng shui par exemple, ou des rituels autour du kung-fu, parce qu'il y avait beaucoup de rituels magiques, et comme ils ont été malmenés, ils ont peur de passer pour des gens superstitieux, donc on n'aime pas trop parler de ça. Mais à l'époque effectivement, un village était conçu selon les préceptes du feng shui, et notamment autour des tombes des ancêtres. Et c'était ça qui a vraiment exaspéré les Chinois, c'est que typiquement les Allemands voulaient construire des chemins de fer pour traverser le Shandong. et en passant sur les tombes des ancêtres. Et pour les Chinois, c'est pas possible, ça.
Bon, il y a une arrogance européenne qu'on a connue au temps du colonialisme vainqueur et triomphant dans toutes les parties du monde. Mais ce qui est intéressant avec la Chine, c'est qu'ils arrivent dans une civilisation très installée. Ils n'apportent pas à la civilisation, ils apportent juste un autre modèle et ce modèle ne passe pas. On va revenir un peu sur ces guerres de l'opium, parce que ça, je pense que peu de gens le connaissent chez nous, et c'est essentiel, c'est extraordinaire quand même ce qui s'est passé et à quel point l'Europe, en l'occurrence là c'était en tête de pont la Grande-Bretagne, parce que c'était la première puissance mondiale à l'époque, à utiliser toutes les méthodes de crapule pour s'imposer.
Tout à fait. Alors là, vraiment, c'est crapuleux, c'est le mot. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que à cette époque, au 19e siècle, tous ces grands empires voulaient commercer, voulaient installer leur étendue impérialiste. Et en fait, ils ne voulaient pas forcément envahir, mais ils voulaient commercer. Notamment, ils voulaient du thé, la soie, etc. Et pour les Chinois, pas de souci, tant qu'on se prosterne devant l'empereur. Parce que l'empereur est le maître. Et ça, les Britanniques pas le faire, donc ils n'avaient pas le droit d'entrer. Et donc ils cherchaient un levier pour pouvoir commercer, parce que les Chinois, eux, ne voulaient pas du tout acheter ce que proposaient les Britanniques.
Les produits manufacturés.
Et puis en plus, ils voulaient qu'ils le payent en argent, et les Britanniques ne voulaient pas, ils voulaient troquer. Donc il y avait vraiment un problème qui était commercial. Et donc ils cherchaient un levier, et ça a été l'opium. Donc l'opium qui était fabriqué en Inde, donc c'était pas très loin pour le faire venir en bateau, le risque était assez faible. Donc ils se sont dit, on essaye. Et comme les Chinois souffraient beaucoup, de la faim, d'un travail très dur, de conditions de vie terribles, eh bien l'opium, ça a été pour eux, ça a marché très très fort, cette histoire.
On a cassé les prix, on a vraiment fait une politique de mafia, quoi.
Oui, tout à fait.
On va rendre les gens dépendants pour s'assurer une balance commerciale, c'est ça, en fait.
Et en Angleterre, d'ailleurs, les gens, les Anglais n'étaient pas très preneurs, il y a beaucoup de gens qui critiquaient. D'ailleurs, il y a même une lettre, je crois, qui est arrivée à la reine Victoria, mais elle dit qu'elle ne l'a jamais reçue pour dénoncer cet état de fait.
C'était interdit en Angleterre, l'opium.
C'était interdit, ouais. Et puis pour dire, on ne doit pas traiter les Chinois de cette façon-là. Les Anglais préféraient ne rien voir. Et puis quand les Chinois, eux, à un moment, se sont dit stop, maintenant, il y a un dignitaire chinois qui a été jeté la cargaison d'opium dans la mer pour dire maintenant, ça suffit. Ils se sont dit, casus belli, on attaque. Parce que
c'est la politique de la canonnière. On va avec des bateaux. Alors là, on voit le choc de la modernité, la Chine n'est pas au point militairement, simplement. Mm-hmm. Et on va avec un gros bateau, des canons pointés sur rempart, on menace, on canonne.
Voilà, et là du coup les Chinois, surprise, ont découvert que l'industrialisation était en Europe et pas chez eux. Mm-hmm. Et puis là ils ont dû se plier. Et ça a été ce qu'ils appellent le siècle de l'humiliation, donc les deux guerres de l'opium et ensuite la guerre des boxeurs ils ont perdu toutes ces guerres les unes après les autres en essayant, donc c'est Cixi l'impératrice qui essaye vainement de tenir le choc, mais ça a été très très dur et je crois que pour les Chinois c'est pas encore passé. Visiblement, ce siècle d'émulation.
On va en parler dans la deuxième partie. Ouais, il y a une vision du monde des Européens qu'on ne comprend pas non plus. Et on se demande pourquoi tout le monde nous déteste. On a peut-être une clé, grâce à vous, de se replonger dans cette histoire-là. C'est essentiel, comment on a traité les autres.
Il faut comprendre comment eux nous voient, je pense. Ouais. Ouais.
Mm-hmm. Bon, on va se retrouver d'ici quelques instants pour la deuxième partie.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Hélène Jacobé, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission autour de ce personnage, donc Lina Yeh, on l'a bien compris, vous nous l'avez expliqué, personnage historique, défilé de jeunes femmes devant l'impératrice à Pékin pendant cette révolte des boxers. Vous romancez son histoire avec une histoire de la pauvreté déjà. Quelqu'un qui vient d'un milieu très très modeste.
Oui, alors d'un milieu très modeste, donc c'est la fille d'un batelier. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a eu deux métiers, voire peut-être trois, qui permettent de faire les liens entre toutes les strates de la société. Parce que les artistes de cirque, évidemment, rencontrent plein de gens.
Les filles de batelière, elle va devenir artiste de cirque.
Donc elle va dans les. Elle connaît la culture, la musique, les danses, elle connaît sa culture. Et puis, prostituée, évidemment, j'imagine qu'on rencontre pas mal de monde. Et puis, guérisseuse, tout le monde peut être amené, quand on souffre, à aller voir un guérisseur pour lui demander conseil. Et visible, enfin, je pense que c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai imaginé, comme quelqu'un qui, finalement, vient de la pauvreté, vient de l'humilité, mais qui est capable de passer toutes les portes et d'aller à la rencontre de tout le monde, en fait.
Ça lui permet, ce chemin-là que vous inventez, ou en tout cas que vous inventez à moitié, lui permet de connaître les pauvres, connaître les riches, voilà. Parce que comme guérisseuse, elle va avoir affaire aux riches, ceux qui connaissent les trames de ce qui se passe, hein, parce qu'on a décrit une opposition frontale entre la Chine et l'Occident. On peut aussi parler de ce qu'on appelle aujourd'hui des collabos, de ceux qui voulaient aller dans ce système-là, ceux qui ont retiré des richesses. Mm-hmm. Donc elle comprend, elle connaît tout ça, et vous en faites quelqu'un de très réticent, hein. Elle ne veut pas aller à la baston. Ben, c'est pas une passion. J'utilise le mot passionnariat, c'est pas ça, en fait.
Ben, moi, je l'imagine comme ça, parce que mais pendant toute l'écriture du roman, je me suis dit, mais peut-être que c'est une mystificatrice, cette femme. Parce que, justement, comment, si on est guérisseur, donc on a ce don, c'est pour faire le bien. Et évidemment que si on en fait quelque chose de pas bien, il est retiré. Enfin, c'est un peu ce qu'ils disent. Hein. Et du coup, pour moi, ça ne marchait pas. Et je me suis dit, mais alors, comment, pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'elle a réussi à en faire quelque chose de bien? Parce qu'elle a cette réputation quand même d'avoir fait du bien à beaucoup de gens. Donc si c'est une mystificatrice qui a juste été là, puis qui c'est, je sais pas, quelqu'un qui avait la haine contre les étrangers comme tous les autres, bon, c'est possible, mais je ne l'imagine pas comme ça. Moi, je l'imagine plutôt parce que en fait, il y a eu un avant et un après. Après Linéaire, les femmes sont sorties de chez elles. C'est quelque chose qu'elles ne faisaient pas avant, mais après ces milices. Il y a eu des femmes journalistes, il y a même une femme condamnée à mort pour outrage politique. Enfin, tout à coup, elles ont existé. Donc, elle a déverrouillé quelque chose.
Elle reste, on peut faire un parallèle foireux, hein, avec Jeanne d'Arc, mais enfin, elle reste quelqu'un en Chine, hein, aujourd'hui,
oui,
cette Linéaire.
Oui,
elle reste dans les mémoires, elle reste
statue,
une personne.
Oui. Oui, donc moi, je l'ai imaginée comme ça, réticente, parce que je ne comprenais pas. Parce que vraiment, voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était ce destin de guérisseuse, en fait. Voilà, comment, dans une période de guerre et de haine, garder finalement un cap. Et alors, j'ai imaginé une histoire comme ça, voilà, qui me paraissait plausible.
Le Lotus Jaune, hein, c'est le titre de votre roman, c'est aussi le nom de son école, son havre, hein, qu'elle crée justement pour recueillir des jeunes filles abandonnées. On n'a pas parlé de ça, mais il y a la fin.
Oui.
J'ai pas noté le passage, mais il y a un moment terrible où sur un paragraphe, vous décrivez la famine dans les campagnes, et vous terminez par, très sobrement, ils ont mangé de l'herbe.
Oui, hein, et ça c'est historique, ça, voilà. Je l'ai pris dans les livres d'histoire, ils ont vraiment mangé de l'herbe, mangé des verres, parce qu'il y a eu plusieurs séries d'inondations où, ben voilà, il y a eu, je crois, 3 ou 4 hivers où les paysans n'ont pas cultivé.
Donc, elle recueille ces femmes, elle les forme, elle leur donne un gîte, mais aussi une formation dans les métiers du cirque, d'ailleurs, qu'elle connaît bien. Certaines, elles veulent en faire des guérisseuses aussi, hein, si elle perçoit le don. Et puis, ça va devenir une des milices de cette révolte des boxers, les Lanternes Rouges. Voilà. Ça aussi, c'est historique.
Ça, c'est historique. Alors, les Lanternes Rouges, c'était une des milices, d'ailleurs, justement, c'est parce qu'il y avait les lanternes rouges, les lanternes bleues, les lanternes vertes, les lanternes noires. Et en fait, ces femmes étaient organisées par classe d'âge, ou alors les veuves, les mères. Et puis, les lanternes rouges, c'était les jeunes, les vierges, donc évidemment les plus jolies, qu'on mettait en rouge, donc bien visibles. Et donc, c'est ça que, je pense, l'histoire a retenu. Mais elles étaient organisées vraiment... elles étaient ensemble, en fait. Et ça, j'ai trouvé aussi très beau dans l'histoire de Linéaire, c'est qu'elle a mis ces gens ensemble. Et ça, c'est une tradition chinoise qui mérite, je crois, d'être connue. C'est justement ces sociétés d'entraide, et qui sont à l'origine, hein, de ces boxeurs qui sont des congrégations de gens à la limite des mafiosos, hein, mais
on a dit boxeurs, c'est un peu vulgaire, hein, c'est un peu occidental. Eux, c'était la milice du poing et de l'harmonie, hein,
ouais, c'est
tout même autre chose.
Le poing de la justice et de l'harmonie, ouais. Oui, c'est bon. Alors, il y a plusieurs traductions qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Alors, on imagine ce poing levé, Ouais.
Avec cette idée d'harmonie toujours présente. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, elle connaît tous les milieux par son parcours, elle parle aussi avec tous les milieux, et ça c'est pour moi une grande réussite de votre livre, c'est que vous ne nous abrutissez pas d'abord de noms de famille compliqués pour nous, hein, parce que contre-intuitif, difficile, vous donnez des surnoms à certains des personnages, et puis par son travail de guérisseuse, elle va parler à quelqu'un qui est très en cours, donc qui est un commerçant temps, mais qui a, ou un intellectuel qui a une vision de ce qui se passe d'un point de vue politique, elle va aussi parler aux pauvres. Et donc on a finalement une histoire globale de cette révolte des boxers dans tous les camps, grâce à elle et grâce à ses rencontres et à ses discussions un peu philosophiques souvent autour de ces événements.
Oui, alors tout à fait. Donc ces personnages, j'avais besoin d'eux en fait pour expliquer l'histoire, parce que je vous dis, c'est l'histoire de Linéaire, ça fait partie de ce contexte à ce moment-là, dans ce pays-là, voilà. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça y est, zut, j'ai perdu le fil. Vous me disiez par rapport au fait qu'elle
Oui, non, elle permet d'avoir une vision globale. Je ne pense pas qu'il y ait trop à rajouter là-dessus, grâce à ces rencontres, justement. Et à la façon, je vous disais que c'était une réussite, que vous le faites de façon très harmonieuse. Ce sont des rencontres naturelles, des discussions naturelles qui nous permettent de comprendre le contexte historique. Moi, j'aimerais qu'on termine cette discussion avec justement comment l'Europe et comment votre livre nous crie. Et ça, je trouve très important ce qu'a été la colonisation. Dans un cas précis, qui est celui de la Chine, il n'y a pas eu d'occupation territoriale, mais il y a eu des méthodes de voyous. On a parlé de la guerre de l'opium tout à l'heure. Il y a eu des conversions, on convertissait des gens, on leur donnait ensuite des avantages matériels, parce qu'on arrivait avec l'argent, les chrétiens du riz. Hein,
ah, ça, je ne connaissais pas cette expression, mais oui, ça sonne.
J'ai trouvé chez vous, les chrétiens du riz.
C'est vrai?
Oui.
Bah, non, alors. Ça sonne bien.
Ou je l'ai peut-être trouvé alors dans des recherches parallèles.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on redonnait du riz des convertis, ce qui leur permettait d'échapper à la famine.
Oui, tout à fait. Et justement, ils n'ont pas été colonisés parce qu'ils ont pris le parti de payer jusqu'au dernier centime les énormes indemnités que leur réclamaient les huit nations qui avaient gagné cette guerre. Et après, moi, je m'interroge parce qu'on regarde tout ça d'un air en se disant ah oui, vraiment, les Européens, quels voyous, et puis ces missionnaires, quelle horreur quand même de convertir. Mais en fait, alors, on en parlait tout à l'heure, on refait le passé, on refait le procès du passé avec nos yeux d'aujourd'hui. Moi, je me demande, j'entends beaucoup de gens quand je leur parle de la Chine, ils disent qu'ils ont peur, oh, ça fait peur, et puis quand même, la démocratie, la liberté individuelle, etc. Alors, moi, je suis un produit de la démocratie, de la liberté individuelle, donc bien sûr, je suis convaincue, mais comme les missionnaires étaient convaincus à l'époque. Et je me demande si de brandir toujours nos propres convictions, parce qu'on a vécu dedans, parce qu'on est issu de ça, et puis qu'on en trouve. Brandir ça en disant vous nous faites peur parce que vous n'êtes pas comme nous, je pense qu'il faudrait qu'on passe à autre chose quand même. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort, mais je pense que la démarche n'est pas...
On est peut-être dans une position inférieure aujourd'hui qui dit que bon, passons à autre chose. Hein, mais la plaie, la blessure, elle demeure. Il y a une humiliation terrible d'une civilisation, encore une fois millénaire, en Chine, et qui explique comment le monde, on appelle ça le Sud global aujourd'hui, nous voit. Hein.
Ben,
que ce
comme
soit
des gens,
en Afrique, que ce soit en Asie,
comme des gens pas très crédibles,
hein. Sud,
pas très crédibles et pas très sympas, oui, et commercialement très agressif. Et on est étonné, beaucoup d'entreprises souffrent de la concurrence chinoise en Suisse, en Europe. On est étonné, mais je pense que, moi, je ne suis pas si étonnée que ça. Enfin, après avoir fait les recherches que j'ai fait pour ce roman, je pense que c'est, oui, ce serait pas mal qu'on s'intéresse un peu à essayer de se comprendre avant d'essayer de se transformer.
Moi, j'ai eu grâce à votre livre une confirmation de ce que j'avais entendu dans des conférences de géopolitologues qui disaient mais il faut bien comprendre que dans chaque cerveau chinois il y a encore l'humiliation des guerres de l'opium, l'humiliation du siècle de l'humiliation.
Parce que je crois que c'est comme ça que s'appelle le chapitre d'histoire à l'école. Hein.
Ouais.
Le siècle de, comme nous on a, je sais pas, la première guerre, ils ont le siècle de l'humiliation. Ouais. Donc forcément, c'est l'image qu'on a n'est pas idéale. Alors l'image qu'ils ont en Europe, apparemment, il y a de moins en moins de gens qui prennent des cours de mandarin, les instituts Confucius ferment, donc. J'ai l'impression que finalement par rapport à il y a 30 ans où on s'intéressait, on regardait ces films et tout, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se déliter, c'est dommage, parce que c'est une belle culture et puis je pense qu'on a quand même beaucoup en commun. Et justement moi pour écrire ce roman, je suis partie plutôt que de me dire oh là là, la Chine c'est compliqué, tous ces noms bizarres et tous ces lieux et toute cette histoire que je connais pas, mais j'ai essayé de partir de ce qu'on avait, de ce qu'on a en commun en fait. Et je pense qu'on on est des êtres humains avec ils aiment le cirque, moi aussi, enfin il y a plein de trucs,
moi j'aime la cuisine chinoise.
Voilà, je pense qu'il faut partir du simple, en fait.
Moi, j'ai trouvé très fascinant de voir la différence de civilisation entre une civilisation vraiment basé sur l'objectif. Hein, il faut réussir l'objectif. C'est la civilisation européenne qui a eu son triomphe grâce à ça. Et une civilisation chinoise, à cette époque-là, aujourd'hui elle a compris comment marchait le monde, mais à cette époque-là, basée plutôt sur l'harmonie. Alors c'était pas joyeux. Hein, il y avait des pauvres très pauvres.
C'était, et puis ils étaient pas mal impérialistes, hein, le Tibet, tout ça. Enfin, c'était...
Oui, mais dans des frontières proches, quoi. Hein.
Ben, je crois qu'ils étaient pas mal impérialistes. Par contre, ce qu'ils avaient pas vu venir, c'était vraiment l'industrialisation. Mmh. Et ça a fait des ravages aussi en Europe. D'ailleurs, la plupart des colons qui sont partis justement conquérir le monde, c'est ceux qui trouvaient pas leur place en Europe, parce que les vieilles familles qui ont été poussées.
Ça y a un chapitre. Enfin, il y a un moment très intéressant. Où vous dites, il y a une description de l'intellectuel qui dit, ceux qui viennent chez nous, c'est les frustrés. Hein,
c'est les frustrés qui veulent, c'est l'ambition en fait. Et ça, je pense que c'est très humain en fait. Cette ambition, on veut être riche. Et d'ailleurs, les Chinois, eux, l'assumaient complètement dans leur programme politique. Hein, les 10 dernières années, ils voulaient être riches. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus l'usine du monde, pour s'enrichir, pour sortir de cette misère. Et je pense que c'est important quand même de. Oui, parce que tant qu'il y aura de la misère, il y aura des trucs bizarres qui vont se passer. Mais que ce serait bien que tout le monde en sorte.
Bon, votre livre, Hélène Jacobet, nous permet de mieux comprendre le monde, mais surtout de suivre la vie, les aventures, parfois palpitantes, parfois calmes, hein, parfois sereines et calmes, de cette jeune femme, Lynn Ayer, donc personnage historique qui devient une figure de cette révolte des boxeurs. Merci.
Merci à vous.
Voilà, un livre paru aux éditions Héloïse d'Ormesson et Favre. Voilà, au revoir.
Au revoir, Nathalie.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
La minute hawaïenne
sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La minute hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Aujourd'hui, dans la minute hawaïenne, un lundi au soleil, un soleil chablaisien, un 22 avril. C'était un lundi au soleil, un soleil chablaisien, un 22 avril. Vivement l'été.
La minute hawaïenne
sur Radio Chablais.
Qu'est-ce que ça fait de bien de se détendre?
La minute hawaïenne, c'est comme la pizza, mais en radio.
J'ai pas compris.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Le bon plan de Cyril vous est offert par Bliblablo de Net Plus et ses services internet, mobile et TV. Bliblablo, le multimédia d'ici.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais.
Ici à la boutique Anaïs à Aigle, je me suis posé la question, si je veux acheter des sous-vêtements pour ma chérie, comment je fais? Alison, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a déjà une histoire de taille, forcément, mais moi, je veux faire la surprise, il faut que je regarde discrètement, mais vous allez pouvoir me conseiller si je vous dis, ma chérie, elle est à peu près comme ça, elle est un peu ça et tout, comment on fait?
Alors, on a plusieurs options. La plus facile, c'est de, j'irais d'aller chercher...
Discrètement la taille, quoi, de voler un sous-vêtement une fois et d'essayer de s'en souvenir avec ma mémoire de mec moyen.
Voilà, ou alors de faire une petite photo de l'étiquette.
Ça, c'est bien ça.
Voilà, avec la taille, et puis de revenir vers moi en me présentant la photo pour le haut et la photo pour un bas. Comme ça, ça nous aiguille déjà un petit peu dans la taille que madame prend. Puis après, ça va être au niveau des choix des couleurs, des modèles. Et puis après, c'est clair que quand c'est un cadeau, on a des fois une chance sur deux que ça passe, mais après, de toute façon, on échange, on fait les retours, il n'y a pas de souci.
Maintenant, des couleurs qui inspirent, hein. Quand je vois tous les modèles ici, forcément, j'ai les yeux qui brillent, mais comment on va pouvoir bien choisir? On se dit, c'est le choix personnel qu'on a peut-être envie de voir sur la personne, mais il y a aussi peut-être la couleur de peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, enfin, comment on choisit idéalement pour essayer de se faire plaisir personnel, mais plaisir partagé?
Alors c'est vrai que d'abord on va être attiré par une couleur. souvent par une forme, par un modèle. Mais le meilleur des choix, c'est après d'essayer. Parce qu'on va voir des fois un soutien-gorge sur cintre magnifique, puis tout d'un coup porté, on va se rendre compte que c'est pas forcément la forme, la coupe qui nous met le plus en valeur et qui flatte le mieux. Alors après, on va trouver ensemble la bonne taille, la bonne forme, et c'est beaucoup d'essayage pour arriver à la sélection finale.
Alors justement, est-ce que la meilleure chose, c'est pas de venir en couple, si on est en couple? Ça peut être rigolo, une séance d'essayage à deux.
Oui, alors c'est vrai que des fois, j'ai des personnes qui viennent en couple. Ça, madame essaye, monsieur valide, donne son petit avis. Mais après, au final, le choix final revient souvent à madame, car c'est elle qui le porte. Hein. Donc, elle doit quand même se sentir bien dedans. Mais on peut venir à deux, en effet. Ça peut être un bon moment aussi.
Puis alors, bien sûr, si on est célibataire, on se fait énormément plaisir. On vient ici, je dis pas le garçon, hein, parce que moi, je me vois pas porter certaines choses que vous avez. Mais, mais par contre, une dame, ben, vous allez aussi pouvoir peut-être l'orienter, la conseiller. Peut-être aussi, c'est un moyen de se redonner confiance, non, de porter des jolis sous-vêtements. Parce qu'au final, c'est que pour soi.
Ah oui, alors c'est clair que quand on va se regarder dans le miroir avec une belle parure, quelque chose qui nous met en valeur, ben, on va tout de suite se sentir très belle et un grand sourire, et puis ça fait du bien.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Se nourrir, s'habiller, se distraire ou se meubler, que peut-on faire aujourd'hui?
Le bon plan de Cyril.
Sur Radio Chablais, programme de nuit.
Le MAG, c'est ta région par ta radio du lundi au vendredi après le journal de 17h. Et le lundi, on fait des étirements et des génuflexions parce que c'est sport et c'est avec toi Thierry Nicolet, bonjour.
Bonjour Loïc.
Et on commence par The événement sportif du week-end, la patrouille des glaciers.
Exactement, et à la PDG, vous le savez Loïc, il y a les élites qui finissent devant, comme les vainqueurs féminines Caroline Ulrich et Thibaut de Seine de la Tour de Paix et les Uns. Mais un peu derrière, il y a aussi de belles histoires qui s'écrivent. Laurent Perruchot de Massonger l'a remporté deux fois cette mythique course. C'était sur le grand parcours entre Zermatt et Verbier en 1992 et 1994. Il a couru hier sa 10e et dernière PDG, non sans émotion, puisqu'il était accompagné de ses deux filles, Jade et Léa. Interview juste après la course.
Ouais, c'est vrai que ça fait quelque chose parce que je ne pensais plus la refaire. La dernière fois, j'avais fait en 2010, j'avais dit que c'était bon. Et puis là, pour faire avec mes filles, voilà, c'était parce qu'ils ont beaucoup entendu parler de la patrouille des glaciers, mais elles étaient encompanées. Et puis maintenant, je voulais leur montrer le passage. Et puis pour moi, c'est clair que la boucle est bouclée. Je voulais la faire une fois, la finir avec elles. Et puis maintenant, elles se débrouilleront toutes seules, sans moi.
Vous en avez pensé quoi, vous deux?
En tout cas, trop eu du plaisir. C'est vrai qu'on a toujours voulu aller sur le parcours, voir ce que papa avait fait. On a commencé déjà de faire la petite, mais on voulait toujours faire ensemble. Donc on est vraiment contents et ça s'est vraiment super bien passé. Donc non, c'est chouette, une belle expérience.
Oui, c'est un super beau défi. On a pu s'entraîner toute la saison, c'est top. On avait juste peur que on puisse pas partir et finalement la saison s'est tout bien terminée. Cerise sur le gâteau.
Cerise sur le gâteau, alors dans des conditions qui ne sont pas forcément idéales. Laurent Perruchot, vous avez connu les meilleures conditions, on imagine, lors de vos deux victoires, on le rappelle, 92-94. Aujourd'hui, c'était quand même compliqué.
On nous prédisait vraiment très froid et tout, et je pense franchement, c'était des conditions idéales. Pour nous, on a même eu du soleil sur Rosa Blanche. Les marches super bien préparées, j'aurais un peu souci, j'ai dit avec toute la neige qui est tombée, mais c'était top. Et franchement, on a passé vraiment une belle édition. J'ai eu vu pire que ça il y a des fois que là. Alors bon, c'est clair, c'est sur le petit parcours, c'est peut-être différent que sur le grand. Mais non, de bonnes conditions. Bravo à l'organisation et bravo à vive la patrouille des glaciers.
Vous avez abordé tout à l'heure le côté transmission à vos filles. Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'elles aient retenu aujourd'hui?
Oui, moi c'était surtout la solidarité. C'est vrai qu'on est trois, une patrouille comme ça, j'ai toujours aimé grâce à ça, c'est de s'entraider. Ça sert à rien de partir devant, comme j'ai dit aux filles. S'il y a une qui est un peu plus, qui est pas bien à un moment, on doit rester avec, on doit s'occuper d'elle, on lui porte les skis, on fait. Moi c'est ça que je veux leur transmettre, la vraie chose pour le sport, c'est vraiment partager, passer des bons moments ensemble. Et puis c'est pas individuel, c'est une patrouille, et puis c'est ça qui est beau.
Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, Laurent, la patrouille des glaciers, quand on vous dit juste ça?
Moi, c'est un rêve. C'est clair que quand tu l'as gagné, c'était toujours... les gens, ils te disent toujours encore 30 ans après. Pourtant, Il parle toujours de ça et ça fait plaisir. Alors là, j'ai eu du plaisir après à préparer avec les filles. Mais c'est vrai que la patrouille de l'IAC, c'est magnifique, quoi. C'est sacrée organisation. Hein.
Oui, est-ce que ça vous a donné le virus? On espère revenir dans 2 ans.
On verra. En tout cas, c'est motivant. En tout cas, j'ai vraiment adoré. Pourquoi pas? Ouais, franchement, ça vaut le détour.
Et pour la petite histoire, les Perruches, c'était le nom de leur équipe, ont rallié Verbier depuis Arouella en 7h, 35 minutes et 59 secondes.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Direction les patinoires à présent, c'est encore de saison, on en profite, n'est-ce pas Thierry Nicolet? Même si pour cette personnalité sportive de la région, la fin de saison rime avec sa retraite également.
Exactement, l'américano-suisse Christophe Braun a décidé de tourner l'une des pages les plus importantes de sa vie, celle du hockey. Après avoir griffé la glace en tant que joueur, puis transmis sa passion en tant qu'entraîneur, le Villardoux de bientôt 50 ans a décidé de tirer la prise après 4 décennies dans le milieu. Jusqu'à ce printemps, il coachait le HC Monté-Chablais en 2e ligue. Il revient sur cette décision.
À 50 ans, on a quand même un peu moins d'énergie. Je l'ai quand même constaté tout au fil de la saison. Et puis à un moment donné, il faut savoir dire stop, il faut savoir fermer son livre qui a été ouvert effectivement il y a plus de 40 ans. Donc on va dire 4 décennies où tous mes week-ends du mois d'août au mois de mars, avril étaient rythmés par le hockey sur glace. Et puis à un moment donné, faut dire stop. Puis c'est le cas aujourd'hui.
Ouais, vous avez dit 4 décennies, ça fait 80% de votre vie, hein, si on arrondit un petit peu. Ça fait un peu peur quand même.
Ouais, non, peur pas. Après, c'est clair que j'aurai un peu plus de temps pour moi. Peut-être faire un petit peu de sport aussi à moi, parce que j'ai mis ça un petit peu de côté. D'ailleurs, c'est certainement la raison de mes quelques kilos qui débordent à gauche, à droite. Mais non, en tout cas, maintenant, ça me fait pas peur. De toute façon, c'est l'intersaison, donc on peut pas vraiment y penser. Certainement qu'au mois d'août, mois de septembre, ça me titille un tout petit peu. Et puis ben, pour l'instant, ben, je l'ai fermé, je compte l'avoir fermé pour de vrai ce bouquin. Mais sait-on jamais, peut-être que d'ici une année ou deux ou trois, ou quelque chose comme ça, ce qui adviendra de l'avenir.
Le coaching, ben, ça fait quand même 10 ans maintenant. Qu'est-ce que ça vous a apporté en tant qu'être humain?
Beaucoup, vraiment énormément. Je dirais la première chose, c'est que j'ai toujours pu côtoyer des jeunes, voire des très jeunes, donc ça m'a gardé aussi avec un esprit encore plus jeune toutes ces années durant. Et puis je pense que ça m'a aussi aidé dans mon travail, hein. Je veux dire, mon travail, je suis employé de banque, je reçois de la clientèle, et puis ben, il faut aussi être bien écouter, savoir écouter, analyser les besoins de chacun, autant dans ma profession qu'au niveau du hockey. Donc ça m'a permis en fait de trouver un bon mélange, et beaucoup de choses que je reprends de la banque pour le hockey, puis d'autres choses que je prends du hockey pour amener dans mes entretiens banque. Donc pour moi, ça faisait un bon lien et régulièrement j'y pensais.
Bon, vous étiez joueur, vous avez joué à Fribourg, à Zoug, à Lausanne, à Sierre aussi, à Villars. Cette décision de devenir coach, comment elle s'était faite?
Alors, c'était pas vraiment une décision, c'est venu un petit peu comme ça par hasard. En finalité, je donnais un coup de main aux jeunes ici à Monté. Après, ils cherchaient quelqu'un pour reprendre éventuellement la première équipe. Dans un premier temps, ça devait être un autre coach.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit, je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir, j'envie celui qui verra son réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Voyez comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rend belle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle.
Cette nuit, elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir, j'envie celui qui lui manque au réveil. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Elle a laissé son cœur entre nous. Entre nous et le reste. Elle a laissé son cœur à genoux. Sur le sol des promesses. Elle a laissé son cœur entre nous. Laisse le pire et le reste, elle s'en fout. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
We'll be right back.
out of love, maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch.